conclusion de nos programmes va maintenant se poursuivre en français.
Bonjour et bienvenue sur Radio Prague. Magdalena Hrozinková au micro vous remercie d'être à l'écoute du programme préparé par la rédaction française. À l'affiche, comme chaque samedi, l'actualité culturelle et littéraire, ainsi que le Tchèque du bout de la langue, une émission réservée aux tchécophiles de Radio Prague. Dans le cadre du 46e Festival international du film de Karlovy Vary, le film « Ni à vendre, ni à louer » de Pascal Rabaté était le seul film français à être présenté en compétition officielle. À l'heure où nous diffusons cette interview, le palmarès du festival n'était pas encore connu. Dans l'émission d'aujourd'hui, Anna Kubishta accueille Pascal Rabaté autour de BD, mais qui est passé derrière la caméra pour la deuxième fois après son premier long métrage « Les petits ruisseaux » adapté de sa BD éponyme.
Culture sans frontières. Anna Kubishta.
Votre film s'appelle « Ni à vendre, ni à louer ». Alors c'est un film un peu particulier dans sa forme, puisque c'est un film sans dialogue. En tout cas, ça ne veut pas dire que c'est sans son, évidemment. Ce sont en fait des petites scénettes, des espèces de petits tableaux, je dirais, qui mettent en scène justement les différents personnages de votre film. Est-ce que c'est parce que vous venez du monde de la BD que vous avez choisi cette forme-là ?
C'est parce que je viens du monde de la BD que j'ai voulu faire un film qui soit spécifiquement un objet cinématographique. C'est-à-dire, je pense pas que ces histoires, parce que c'est des histoires de six histoires qui se croisent le temps d'un week-end, donc c'est une interpénétration d'histoires qui reviennent les unes. C'est vraiment monté en cut. On a vraiment beaucoup de petits éléments qui arrivent tous à un moment donné qui va être le pic, qui va être une tempête dans la nuit, puis qui va redistribuer un peu les cartes. Mais c'est, je dirais que oui, venant du dessin, des arts plastiques, j'avais envie de faire des images qui soient cadrées, qui fassent sens, puis qui soient plastiques. Mais je pense que cet objet ne pouvait exister qu'en audiovisuel, parce qu'il y a beaucoup de travail sur le son, beaucoup de hors-champs qui sont créés par des bruits de vaisselle ou des déplacements. On a beaucoup travaillé sur l'épure de ce côté-là, pour justement que chaque son fasse sens. Au départ, je pensais partir sur quelque chose d'un peu plus naturaliste. Je parle en termes d'ambiance sonore. Puis finalement, on a décidé d'écrémer et de privilégier, je dirais, le côté un peu décalé et le côté un peu surréaliste.
Alors le côté décalé, surréaliste, évidemment, on pense, et vous le dites d'ailleurs vous-même dans certains entretiens que j'ai pu lire ou entendre en tout cas, la référence à Tati, évidemment, à Jacques Tati est évidente, d'une part parce que ça se passe au bord de la mer. D'ailleurs, le titre, étonnamment, en anglais, je ne sais pas ce que vous en pensez, Holidays by the Sea, ou fait référence évidemment aux vacances de Monsieur Hulot. Est-ce que, évidemment, c'est une de vos inspirations ? Est-ce que vous en avez d'autres aussi pour ce film ?
C'est une des inspirations. Maintenant, il y en a pas mal d'autres. Ça va dans tous les cinéastes burlesques jusqu'aux cinéastes poétiques, parce que des gens comme Pelé qui avait fait l'acrobate sont en fantôme aussi, des gens comme Jacques Demy. Je me sens presque plus proche de Pierre Etex que de Tati, parce que Tati était vraiment un cinéaste de la société. C'était vraiment ça qui était vraiment le personnage. C'est l'individu qui est perdu à l'intérieur de la grosse machine. Et Tex était plus dans l'intime. Donc moi, je me situe un petit peu entre les deux. Mais quand on était sur le plateau, je pensais beaucoup à Coris Maki, justement, sur un jeu d'acteur retenu, sur quelque chose qui soit de l'ordre du jeu pudique. Et là, c'est pas... J'étais quand même assez éloigné de ce que faisait Tati sur un peu le travail du corps, très en pantomime, très commedia dell'arte. J'avais envie quand même de garder un côté très, très réaliste dans les sentiments.
Très réaliste et très pudique, mais en même temps, il n'y a pas de dialogue. Donc il faut quand même que les acteurs jouent de leur corps, en tout cas des expressions du visage, des sons également. Comment est-ce qu'on dirige des acteurs qui ne parlent pas finalement ?
La chose a été, c'est-à-dire qu'elle m'a sauté aux yeux très rapidement. C'est la première journée, je me suis aperçu que on avait, en supprimant l'oralité, finalement, on amenait le spectateur à regarder plus ce qui se passait dans le cadre, et que fallait freiner un peu les acteurs, parce que eux pensaient, comme moi, qu'en supprimant une source d'information, il fallait compenser par un surjeu ou par un jeu un petit peu plus marqué. Il s'avère que ça a été l'inverse, c'est-à-dire que dans le cadre, c'est ce que je disais, Tati aurait fait un film, il a fait Les Vacances de Monsieur Hulot, il aurait pris le scénario, il aurait toujours été 2 mètres plus loin que moi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très très éloigné du corps, est très très éloigné des expressions. Il ne joue pas sur le visage, il joue sur un corps qui se déplace. Nous, on avait décidé de partir quand même, d'ouvrir un peu le champ des possibles en faisant à la fois des plans rapprochés, des plans moyens et des plans larges. Mais du coup, sur tout ce qui est plan rapproché, on s'aperçoit que la moindre inflexion du visage prend des proportions énormes, parce que justement la parole ne va pas nous enlever une partie de cette attention-là. Et du coup, c'est vrai qu'avec les acteurs, on a déstabilisé plus d'un pendant les 2 premiers jours. Et puis, au vu des rushs, ils se sont dit, mais t'as raison, il faut quand même qu'on freine un peu le jeu et qu'on soit, non pas dans l'économie, mais dans une certaine retenue.
Et est-ce qu'il y en avait parfois qui avaient envie de parler ou ça sortait tout seul, par exemple? Est-ce qu'il y a des moments comme ça qui peuvent se produire?
Il y a eu quelques paroles qui s'échappent. Et après, on s'est aperçu aussi au montage que comme c'était pas non plus un cinéma dogmatique, qu'on pouvait s'en servir pour donner justement du relief à la bande-son, pour essayer de créer du rythme. Et du coup, on a « regarde, t'as vu, oh, allô ». Du coup, ça reste des petites choses qu'il n'y a pas besoin de traduire, mais je voulais vraiment que ça soit le corps qui soit en avant et le corps dans un environnement. La parole, on a fait en sorte de l'évacuer totalement, mais de garder quand même ses trucs qui peuvent être compréhensibles aussi bien en France qu'ici ou qu'en Russie ou qu'en Chine.
Du coup, c'est un film qui peut s'exporter facilement finalement.
Ah bah ça, on verra. Ça reste un film français quand même parce que c'est un regard sur une certaine classe sociale qui part en vacances et puis sur des lieux qui sont des topographies qui sont françaises. Mais il y a une identité française, ça c'est évident. Maintenant, je pense que c'est quelque chose, c'est un regard aussi sur des gens qui partent en vacances. Donc en effet, j'espère que ça pourra intéresser d'autres personnes que les Français.
Comment est-ce que vous êtes arrivé, vous personnellement, de la BD au film? Qu'est-ce qui vous a tenté dans cette aventure-là? Vous vous êtes dit d'un jour au lendemain, je veux faire aussi du cinéma.
Je suis rentré aux Beaux-Arts dans les années 80. À l'époque, la bande dessinée n'était pas en odeur de sainteté dans les écoles d'art. C'était même considéré comme un sous-genre. Et du coup, on m'avait demandé, moi, si je voulais rester dans les murs, de faire autre chose. Je me suis orienté vers la gravure, mais j'avais besoin de raconter des histoires. Et du coup, on m'a permis de faire 2 courts-métrages à l'intérieur de ces 5 ans d'études. Donc j'avais titillé un peu à la pellicule, c'était du Super 8, mais j'ai été touché aussi à la vidéo. Et en 96, j'ai remis un peu les couverts en faisant un court-métrage avec Jean Parouti, qui est chef d'écho sur les 2 films que j'ai réalisés. Et puis on a recommencé, on faisait un petit film tous les 5 ans, un bout de reportage. Et puis à un moment, j'ai décidé de passer un peu plus le cap. J'ai réalisé un moyen métrage qui s'appelait Cavalier Facile, mais avec des bouts de ficelle, vraiment un bricolage assez... Enfin, c'est vraiment du bricolage, c'est un côté très très amateur. Enfin bon, ça me travaillait beaucoup. Et puis j'ai sorti un livre qui s'appelait Les Petits Ruisseaux. Et ce livre a été remarqué par un jeune producteur, Xavier Delmas, et puis un plus ancien qui s'appelle Jean-Louis Lévy. Ils m'ont contacté pour savoir si j'étais prêt à lâcher la chose pour que ça passe sur les écrans. J'ai demandé à être à l'écriture, ce qu'ils ont accepté. Et puis, de fil en aiguille, c'est Xavier qui m'a proposé de passer derrière la caméra. Ce que j'ai accepté tout de suite.
Et alors, justement, si vous comparez les 2 genres, qu'est-ce qui vous plaît finalement dans la BD? Qu'est-ce qui vous plaît dans le cinéma? Quels sont les ponts, les passerelles que vous retrouvez de l'un à l'autre?
Oh, les passerelles, elles sont courtes. J'ai l'impression qu'il y en a moins qu'on croit. Si on est chacun d'un côté de la rivière, les 2 genres... La bande dessinée, c'est de la littérature en images. Le cinéma, c'est beaucoup plus près de la musique que de la littérature. C'est une histoire
de la musique.
Oui, pour moi, c'est une histoire de rythme. On a besoin d'avoir des images qui fassent... On fait du sens, mais c'est presque une chanson. C'est une histoire qui est racontée sur un temps imposé, ce qui n'est pas le cas du livre où le lecteur va pouvoir prendre son temps, va pouvoir
poser
le livre. C'est un dialogue. Le cinéma, c'est quand même un truc de. On regarde ça en groupe, et puis on est face à quelque chose qui est. Qui est en temps non dilaté ni non dilatable. Et du coup, j'ai l'impression que je passe d'un bord à l'autre, mais pas par des ponts, en faisant des bonds et en essayant de ne pas me ramasser au milieu de la rivière. Mais les deux m'apportent des choses différentes, c'est-à-dire que la bande dessinée a ça d'extraordinaire, c'est qu'on ne doit rien à personne. Et puis le cinéma a ça d'extraordinaire, c'est qu'on doit tout à tout le monde. Et donc c'est deux plaisirs qui sont complètement différents. Il y a un plaisir de groupe et il y a un plaisir... je comparais ça un peu à la bande dessinée. Pour moi, c'est un feu de cheminée. Le cinéma, c'est un incendie. Après, il n'y a pas d'échelle de valeur. C'est-à-dire qu'on a peut-être... Il y a des braises qui se gardent plus longtemps dans la cheminée que dans un feu de forêt. Mais c'est du coup, vous voyez, c'est un rapport, il y a un rapport beaucoup plus intime qu'avec le cinéma.
Alors, je pensais à Marjan Satrapi, Johan Sfar, qui sont également des dessinateurs de BD qui passent aussi derrière la caméra. Est-ce que ce serait une tendance finalement que les dessinateurs de BD passent derrière la caméra ces derniers temps?
Il y a une tendance, on peut rajouter Riyad Satouf qui a sorti un film il y a 2 ans. Je ne sais pas si c'est une tendance, je pense qu'il y a eu tout d'un coup, pour les quatre, je crois que ça s'est passé de la même façon. Moi, je ne connais pas, je connais Johan, on s'est croisés, mais je ne connais pas plus que ça. Mais je crois que notre histoire a été identique, c'est-à-dire qu'on est venu nous chercher et on a accepté. On est arrivé plus ou moins vierge dans ce domaine. C'est pas les petits courts-métrages moi qui me rendent qui font que j'ai une expérience, c'était déjà du bricolage, donc c'est autre chose. Mais on est arrivé assez décomplexé dans le support en se disant on n'est pas pollué terme un peu fort, mais on avait envie de faire et on n'était pas avec les codes de on traverse pas l'axe, on fait et puis on essaie de faire l'énergie. Donc ça a été un petit peu je pense que ça a été un petit peu le cas de nous quatre, quoi. On est venu nous chercher et on a dit oui en se disant et avec cette différence peut-être avec une génération antérieure, je pense à des gens comme Lozier où pour Lozier le cinéma était du grand art et la bande dessinée était vraiment un pis-aller, quoi. Pour moi comme pour les trois autres, je pense que c'est pas du tout le cas. Moi je me suis exprimé d'abord par le dessin, c'était un besoin, c'était une vraie envie et je continuerai à faire de la bande dessinée parce qu'en effet pour ma chapelle ça reste un art aussi intéressant et aussi passionnant que le cinéma. Il faut simplement savoir ce qui se prête le plus à un genre et ce qui se prête le plus à un autre.
C'était le réalisateur français Pascal Rabaté, venu présenter au festival de Karlovy-Vary son film « Ni à vendre, ni à louer ». Il répondait aux questions d'Anna Kubishta. « Tranquille comme des Tchèques autour d'une bière », tel est le titre du Tchèque du bout de la langue qui vous sera présenté aujourd'hui par Guillaume Narguet.
Le Tchèque du bout de la langue.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj, vám všem milovníkům češtiny, Radia Praha.
Dans ce nouveau numéro, nous allons de nouveau nous intéresser à deux des mots préférés des Tchèques, les mots
pohoda
et
hospoda.
Deux mots difficilement traduisibles et qui n'existent d'ailleurs pas en français, mais deux mots, et plus encore même deux notions, très importants pour les Tchèques, mais aussi pour les étrangers qui veulent mieux comprendre les Tchèques et leur style de vie.
Pohoda, klídek, a tabáček. Půlne noviny číst a pak cigáro, pohoda, klídek, leháro. Nejspíš jsem jenom línej, čím dál víc.
Si l'on s'en tient au dictionnaire tchéco-français,
pohoda
signifie à la fois bien-être, quiétude et sérénité. Une traduction qui n'est certes pas fausse, mais qui reste incomplète. En fait,
Pohoda
est un mot qui englobe à la fois des notions de tranquillité, de satisfaction, d'intimité, de chez-soi, de cocon familial, de confort, d'atmosphère agréable, d'insouciance, d'absence d'une activité fatigante ou stressante, de travail ou de douleur. Bref, être
spohodě,
comme disent souvent les Tchèques, signifie être tranquille. Être
spohodě
désigne aussi un espace dans le temps pendant lequel les Tchèques se sentent en harmonie avec eux-mêmes, avec les gens qui les entourent et leur environnement, une période pendant laquelle ils prennent tout simplement du bon temps. Et si les Tchèques, et plus particulièrement les Pragois, adorent se rendre dans leur maison de campagne dès la sortie de leur travail le vendredi, c'est d'ailleurs pour profiter de cette
pohoda,
du calme environnant et de la tranquillité d'esprit, et oublier pendant le week-end tous leurs soucis de la vie quotidienne.
Harmonikou šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát.
Autre endroit où les Tchèques adorent se rendre,
hospoda.
Ici encore, si l'on s'en tient au dictionnaire tchéco-français,
hospoda
équivaut à une auberge. Seulement, selon le petit Robert, une auberge est, je cite, une maison très simple, généralement à la campagne, où l'on trouve à loger et à manger en payant. Le Larousse nous explique, lui, qu'une auberge est un petit hôtel-restaurant de campagne ou un restaurant d'allure rustique mais dont l'intérieur est élégant. A priori, aucune de ces trois explications ne correspond donc vraiment à l'idée que les Tchèques se font aujourd'hui d'une
hospoda,
même si la dernière est sans doute la plus proche de la notion contemporaine. Mais l'idée de maison simple où l'on peut loger et manger n'est pas non plus totalement dénuée de sens. Voyons donc pourquoi. Tout d'abord, intéressons-nous à l'étymologie de ce mot.
Hospoda.
En vieux tchèque, cela signifiait le maître de la maison des lieux.
Pán domu.
Ou aussi la maîtresse de maison.
Paní domu.
Ensuite, le mot
hospoda
a désigné un foyer, un ménage, une maison dans le sens de chez soi, puis l'ensemble constitué par une famille avec les gens à son service, à savoir les domestiques et les valets. Puis le mot a pris d'autres sens, qui sont nés du rapport existant entre l'hôte, l'invité, le pensionnaire, bref celui qui reçoit l'hospitalité et que les Tchèques appellent
host,
et le maître ou la maîtresse de maison. On suppose que cet hôte appelait alors
hospoda
l'hôte ou l'hôtesse, donc la personne qui recevait chez elle, qui fournissait le gîte, le manger et le boire, et que les Tchèques désignent comme
hostitel.
Ainsi donc est apparue la notion de
hospoda
en tant que maison proposée à l'étranger de passage, puis ensuite de maison offrant gîte et couvert pour ne finalement ne plus offrir que le couvert et bien entendu le boire, et ce en échange d'argent. Et en ce sens, on peut donc effectivement traduire
hospoda
en français comme une auberge. Mais pour les Tchèques, une
hospoda
est bien plus qu'un lieu pour boire et éventuellement manger. Pour les Tchèques, une
hospoda
est surtout un lieu de vie collective, de vie en société, où l'on se réunit et se rassemble pour discuter pendant de longs moments autour d'une bière, la boisson consommée par la grande majorité des clients présents. Notons à son propos que le mot
hospoda
possède pour synonyme
pivnice,
un autre mot propre à la langue tchèque dont la racine est constituée du mot
pivo,
soit la bière, et qui littéralement signifie quelque chose comme local à bière.
Lidičky, já mám rád pivo.
Já taky.
Za pivo ženskou bych dal.
Aspoň za dvě.
Ona mě furt jenom říká. No ale co z toho kořali mám?
Stará, nebuď smutná.
Ainsi donc s'achève ce tchèque du bout de la langue consacré à ces deux mots et notions typiquement tchèques que sont
pohoda
et
hospoda.
En attendant de nous retrouver dès la semaine prochaine pour d'autres découvertes relatives à la langue tchèque, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
Merci à Guillaume pour ce numéro du Tchèque du bout de la langue. À la fin de notre programme, nous vous proposons une rencontre littéraire consacrée aujourd'hui au livre intitulé Praga Magica.
rencontre littéraire. S'il fallait citer le nom du plus grand connaisseur de l'âme de la capitale tchèque, je ne chercherais pas parmi les spécialistes tchèques et je n'hésiterais pas un seul moment pour répondre. Angelo Maria Ripalino. Pourquoi un Italien né à Palerme? Pourquoi un professeur d'études slaves à l'université de Rome? Pourquoi un homme qui, malgré ses visites fréquentes en Bohême, ne vivait pas quotidiennement dans ce pays et qui, malgré ses connaissances et ses sympathies, est toujours resté un étranger? À tous ceux qui me poseraient ces questions, je répondrai « Lisez le chef-d'œuvre d'Angelo Maria Ripalino, Praga Magica. Après l'avoir lu, vous n'aurez plus besoin d'aucune explication et vous serez sans doute de mon avis. » Quand on lit le livre de Ripalino, on se rend compte avec une intensité croissante que malgré l'érudition de son auteur, il ne s'agit pas d'un simple travail de chercheur. Ce n'est pas un rapport ordinaire entre un homme savant et son sujet. Certes, on nous donne ici une énorme quantité d'informations qui sont classées dans différentes catégories. Le livre est divisé en de nombreux petits chapitres, 116 au total, chacun étant consacré à un sujet différent. Le regard scrutateur de l'écrivain plonge dans presque toutes les activités littéraires, artistiques et sociales qui ont marqué la vie de la capitale depuis le début jusqu'aux années 60 du XXe siècle, et pourtant on n'a pas l'impression d'être en présence de l'œuvre d'un professeur d'université. C'est qu'entre l'auteur et son sujet, il n'existe pas seulement un rapport de chercheur vis-à-vis de son sujet, mais une véritable liaison amoureuse. Il l'observe minutieusement sous tous les angles, il enregistre les facettes innombrables de cette ville, et ses observations ne sont que rarement tout à fait objectives, car l'amour ne peut pas, ne doit pas être objectif. Le livre d'Angelo Maria Ripalino utilise une somme énorme d'informations qu'il présente à sa façon. Il compose patiemment une mosaïque bariolée, il brosse un portrait de la ville pareil à un peintre qui fait par d'innombrables touches de pinceau un portrait de sa bien-aimée. Il y a le talent, il y a le savoir-faire et l'érudition, il y a un travail de recherche énorme, mais il y a surtout ce qu'il fait d'une œuvre ordinaire, une œuvre artistique. Il y a la poésie. Car n'oublions pas, Angelo Maria Ripalino est un poète. Voici comment il présente le côté romantique, décadent de Prague.
La malédiction de la montagne blanche a figé dans le temps la ville qui s'étire le long de la Vltava. Elle l'a transformée en une arche chargée d'antiques splendeurs, de vestiges, de statues, de monuments, mais aussi de rebuts décrépits, d'ex-voto, de candélabres rongés, de ressorts d'horloges rouillés. Elle est devenue une ville reliquaire. Prague dort couchée comme une bête rétive dans son passé fastueux. Les lourds chevaux des brasseurs de bière remontent dans les siècles vers un seul point, la montagne blanche.
Une mosaïque, tel est le mot qui exprime bien la nature du livre, une multitude de petits fragments qui, à mesure que le spectateur prend de la distance, compose un tableau compact, homogène. Il y a tant de choses et tant de phénomènes historiques, sociologiques, psychologiques, artistiques et littéraires que l'auteur mélange dans la marmite magique de Prague. Le passant de Prague d'Apollinaire, les alchimistes de la cour de Rodolphe II, le golem de Meyrink et le golem du rabbin Löw, ce qui n'est pas la même chose, les robots de Karel Čapek, les statues torturées par la passion éternelle du pont Charles, la faune des auberges, bistrots et taudis pragois, et aussi bien sûr les deux figures littéraires les plus connues, Josef K. de Franz Kafka et Josef Schleik, le brave soldat de Jaroslav Hašek. En lisant ce livre, on a tout de suite envie de sortir dans la rue et de suivre les traces des héros dont il est question, de visiter les monuments et les quartiers décrits. Bien sûr, certaines choses, certains endroits évoqués dans le livre ne sont plus ce qu'ils étaient. Le livre n'est pas un guide touristique, mais il peut être utilisé comme tel, bien que l'auteur avertisse le lecteur.
Cet ouvrage, messieurs, n'est pas un Baedeker, bien qu'il compte de nombreuses vues de la cité Vltavine qui surgissent çà et là. Je ne jouerai pas les accompagnateurs pédants qui dispensent une leçon mal apprise comme s'il s'agissait d'une manne céleste.
Néanmoins, malgré cette mise en garde, le livre donne et donnera encore beaucoup d'inspiration aux visiteurs de la ville. Il leur permettra de voir les choses qu'ils ne verraient jamais sans cet écrivain qui refuse d'être considéré comme un guide. La critique Nicole Zand constate.
À lire Ripellino, on sent que ce docte professeur de littérature slave s'est plongé dans la littérature de Prague, prêt à accepter tous les sortilèges, les clichés même de la ville et son atmosphère démoniaque, prêt à croire que l'on a pu faire de l'or véritable dans chacune des maisons de poupées de la ruelle des maisons des alchimistes, à fondre de respect devant les miracles accomplis par le Rabbi Lev, le célèbre Maharal de Prague. Il sait que Prague ne sera plus jamais ce qu'elle a été, puisque l'une de ses composantes, les Juifs, n'y reviendront plus.
Pour les Pragois, Angelo Maria Ripellino restera l'écrivain qui leur a appris à regarder la ville d'une autre façon, qui a réussi à les faire sortir de leur aveuglement quotidien, car on cesse de voir ce qu'on voit sans cesse. La beauté et le charme deviennent invisibles lorsqu'on s'y habitue. Il leur a également rappelé que Prague est la ville de trois cultures, tchèque, allemande et juive, et que c'est cette symbiose ethnique et culturelle qui lui a donné son originalité et constitué la base même de son rayonnement. À l'instar de ces juifs déportés, Ripellino a lui aussi été chassé de sa ville bien-aimée. En 1968, il a condamné dans un article intitulé « Les rats du régime » l'invasion soviétique et a prédit la répression de la culture indépendante dans le pays. À partir de ce moment et jusqu'à sa mort en 1978, le chemin de Prague lui a été interdit. Cet Italien qui parlait non seulement le tchèque comme s'il était né à Prague, mais qui connaissait aussi les argots de ses quartiers périphériques et les dialectes de Moravie, ce traducteur infatigable inspirait des poètes Halas, Volker, Hora, Zahradníček, Horten, Kolář, Seifert. Cet essayiste brillant est contraint de passer le reste de ses jours coupé de la principale source de son inspiration. Pourtant, malgré la situation politique qui semble figée à jamais, il ne perdra jamais l'espoir de revoir sa ville.
La fascination, la vie de Prague n'aura jamais de fin. Les persécuteurs, les bourreaux s'évanouiront dans l'abîme. Je reviendrai peut-être, bien sûr que je reviendrai, ombre de ma jeunesse, déboucher une bouteille de Mielnik dans une taverne de Malastrana. J'irai à Prague, au cabaret Viola, déclamer mes vers. J'y amènerai mes petits-enfants, mes enfants, les femmes que j'ai aimées, mes amis, mes parents ressuscités, tous mes morts. Prague, nous ne nous donnerons pas pour vaincus. Tiens bon, résiste. Il ne nous reste plus qu'à parcourir ensemble le très long, le chaplinien chemin de l'espérance.
Chers auditeurs, c'est par cette rencontre littéraire que s'achève le programme de Radio Prague en langue française. Il vous a été présenté par Magdalena Hrozinková, réalisation Dagmar Lidková et Aleš Krupka. Václav Richter vous retrouve dimanche pour le magazine musical. Vous pouvez bien sûr lire et écouter tous nos programmes sur internet au www.radio.cz/fr. Vous pouvez aussi nous contacter par email à l'adresse cr@radio.cz. Bonne fin de week-end. Au revoir. Nasredano.
Radio Praga.